Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous avec ma toute jeune femme d'aujourd'hui. On va aller découvrir comment finalement la passion des origines nous rappelle et nous fait aller de l'avant. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nedal Tefah, bonjour.
Bonjour Yasmina, merci de m'avoir aujourd'hui avec vous.
Ben, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi une femme qui est une amoureuse de l'agriculture. C'est bien ça ?
Exactement.
Alors, à quel âge, Nedal, êtes-vous tombée dans l'agriculture ? Et en plus de ça, vous portez un nom de famille, Subhallah, qui a une part, en fait, de aussi votre parcours. Tfah, en arabe, ça veut dire la pomme.
Oui, d'ailleurs, à l'école, c'était comme ça qu'on m'appelait, la pomme. Mes amis, même maintenant, ils m'appellent la pomme.
Tfah. Alors, Nedal, à quel âge vous êtes tombée dans l'agriculture ?
Donc moi, à la base, déjà, je viens d'une famille d'agriculteurs. Mes grands-parents, ils étaient agriculteurs. Que ça soit du côté de mon père ou ma maman, j'avais un grand-père qui est né, qui a vécu à Taza. Il faisait de l'agriculture dans les montagnes de Taza. Et puis, j'avais mon autre grand-père qui faisait de l'agriculture beaucoup plus dans le Rhône. Mais moi, je n'ai pas vécu en agriculture, en fait. Mmh. Mon père, pour pouvoir nous offrir à moi et mon frère, ma sœur, de meilleures conditions que ce que peut offrir le monde rural, on a été, on va dire, retirés du rural complètement vers la ville. On a grandi en ville, on a étudié en ville. Il voulait, en fait, qu'on étudie, qu'on ait des diplômes, qu'on ait de meilleures conditions. Mais moi, j'avais toujours ce rattachement. Je voulais toujours revenir vers le rural, revenir vers l'agriculture, parce que je pense que c'est là où il y a notre base, en fait. Donc, j'ai commencé par un diplôme d'ingénieur génie rural, parce que je pensais que c'était ça qui allait me faire revenir vers le rural et vers l'agriculture. Mais malheureusement, tout ce que cela a pu m'offrir, c'est un job, un emploi à Marrakech, à dimensionner des plans d'irrigation à longueur de journée. Et puis, dans la période du Covid, j'étais totalement malheureuse parce que moi, j'avais uniquement fait le diplôme pour sentir le terrain, pour sentir la nature, pour sentir que je suis en train de dimensionner des systèmes, en fait, de solutions rurales, pas des systèmes sur un ordinateur. Mm. C'est ça d'où est venue l'idée. En fait, je n'avais pas de plan. J'ai juste démissionné. Je suis partie au premier village qui avait, on va dire, les critères que je cherchais pour commencer l'entreprise. Et c'est comme ça.
Alors, l'histoire de l'entreprise. Maintenant, votre papa qui a fait, on va dire, le sacrifice de quitter sa terre natale pour aller dans la ville, pour vous offrir une éducation, etc. Et qui voit sa fille être rappelée par la terre, amoureuse de la terre, vouloir revenir à la terre. Ça, il l'a vécu comment, lui ?
En toute honnêteté, c'était difficile de le convaincre parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse avoir mon diplôme, pour que je puisse continuer mes études de doctorat, etc. Et à la base, mes parents, pour eux, je pense que la meilleure des positions qu'ils voulaient me voir en tant que carrière, c'est avoir un emploi très stable, peut-être un emploi public très stable, très, on va dire, safe, pour qu'ils ne se dérangent pas, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Donc, au départ, c'était très difficile. Ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais laisser la stabilité, le salaire, le diplôme d'ingénieur pour repartir à zéro, à comprendre depuis le terrain. Mais avec le temps, je pense qu'il a compris que c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me rend heureuse. Et en même temps, c'est ce que j'aime faire autant pour gagner mon pain. Et je pense que là, il est...
Il est fier.
Je pense. Je pense qu'il est fier.
Oui, et oui. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, et ce que notre communauté doit savoir, c'est que vous avez gagné pas mal de prix, en fait, depuis que vous êtes dans cet esprit d'entrepreneur, on va dire, lié à la terre, lié à la nature. Vous vous êtes fait remarquer à l'international.
Oui, exactement. En fait, au départ, que ça soit moi ou mon cofondateur, on faisait que travailler. On était vraiment, on n'en savait rien du monde des prix, des compétitions, etc. Parce que moi, en fait, je voulais juste vendre des systèmes d'irrigation qui permettent à l'agriculteur de gagner du temps, gagner en eau, etc., etc. Mais après, on a soumissionné, par exemple, on a candidaté, par exemple, au prix de Cartier Women Initiative. C'est le dernier prix que nous avons eu. Et à la base, en candidatant à ce prix, moi, je ne pensais même pas qu'ils allaient nous prendre, parce qu'on est une petite entreprise dans le rural, implémentée dans le rural. On travaille juste avec les petites communautés rurales. Et pourtant, ils ont reconnu notre travail à l'international, comme vous avez dit. Nous avons eu le deuxième prix Cartier Women Initiative pour 2026 sur toute la région MENA. Donc, nous sommes classés deuxième au niveau de toute la région MENA. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à l'équipe. Ça fait plaisir à mon cofondateur aussi.
Alors, un cofondateur, comment vous vous êtes mis justement à deux pour monter, et qu'est-ce que vous avez monté exactement?
D'ailleurs, ce que vous devez savoir, c'est que mon cofondateur, il est agriculteur, il est analphabète. C'est en fait la pièce qui me manquait, parce que quand nous étudions, je pense que plusieurs personnes pourraient être d'accord avec moi, quand nous étudions, nous sommes dans le théorique. Nous n'avons aucune idée comment ça se passe réellement pour résoudre le problème en tant qu'ingénieur. C'est que du théorique, c'est que des formules, c'est que du calcul. Ce n'est pas la vraie réalité des contraintes qu'on a dans le rural ou dans l'agriculture. Alors que mon cofondateur, lui, c'était quelqu'un qui n'a jamais étudié, mais qui a passé toute sa vie à résoudre des problèmes dans le rural, dans l'agriculteur. Lui aussi, il est né de parents agriculteurs dans la région de l'Ouémala, exactement de Wav Bouchaven. Et on s'est rencontrés complètement par hasard. Moi, à la base, pour survivre, parce que je devais manger et vivre. Quand j'ai démissionné et que je suis allée à l'arrache, je n'avais pas de quoi vivre. Donc, j'ai commencé à faire des études de dimensionnement d'irrigation en parallèle à l'entreprise. Je devais avoir un petit revenu pour survivre, et en même temps je bâtissais l'entreprise. Et parmi mes clients, il y avait mon cofondateur, pour qui il travaillait dans l'informel. Je faisais des études d'irrigation, et puis un jour, juste comme ça, après, bon, je vais résumer, il y a plusieurs péripéties, mais on s'est dit qu'en fait, on se complémente. Moi, j'ai la stratégie, le côté administratif, le côté vision. Lui, il a tout ce qui me manque à moi, le terrain, le langage des agriculteurs, le savoir-faire qui est pratique. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé avec un seul agriculteur dans la région de Sahel. Et là, on est à plus de 800.
À plus de 800 personnes?
800 agriculteurs.
Waouh! Alors, j'ai entendu qu'aujourd'hui, en fait, le monde de l'agriculture au Maroc est énormément en train de changer de par, en fait, la main-d'œuvre. Les profils sont beaucoup plus difficiles à trouver parce que l'industrie appelle beaucoup plus que l'agriculture, elle offre beaucoup plus de stabilité que l'agriculture. Les gens, justement, du monde rural préfèrent aller dans la ville, travailler dans les usines, etc., à Tanger, Knetra, etc., plutôt que de rester dans, notamment puisque votre associé vient de la région de l'Ghreb, plutôt que rester dans ces régions-là. J'avais assisté à une conférence récemment et quelqu'un disait aujourd'hui, la plus grande problématique du Maroc en matière d'agriculture n'est pas la rareté de l'eau, mais la rareté de sa main-d'œuvre. Est-ce que, Nedal, vous aussi, vous avez rencontré ce genre de problématique ? C'est-à-dire, l'ingénieur qui a étudié, c'était purement théorique, en se disant, bon, ben, la main-d'œuvre est là, etc. Finalement, vous retrouvez à gérer d'autres problématiques que celles auxquelles vous attendiez.
En fait, merci pour cette question. Je l'adore, d'ailleurs. Et c'est la vérité. Et c'est pour nous, en tant qu'entreprise, nous ne sommes pas là pour vendre des systèmes d'irrigation. En fait, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des formations pour les jeunes ruraux qui sont des NEET, qui sont ni dans l'emploi, ni dans l'éducation, ni dans la formation. Et nous les entraînons sur les systèmes pour pouvoir faire la maintenance et réparation, et des fois même pour faire le commercial pour acquérir de nouveaux agriculteurs. Et en fait, vous avez raison. En travaillant avec ces jeunes, la majorité des temps, ils préfèrent largement aller en ville pour trouver du travail qui paye beaucoup mieux que de rester dans le rural parce que les opportunités sont très, très restreintes. Donc nous, autant qu'on ne s'identifie pas en tant qu'entreprise qui vend de l'équipement, mais beaucoup plus en tant qu'une entreprise sociale qui essaie de trouver des solutions pour les contraintes rurales. Et parmi ces contraintes, c'est effectivement... comment mobiliser l'écosystème pour que les jeunes NEET dans le monde rural puissent avoir plus d'opportunités pour rester dans le rural et non pas quitter vers la ville, parce que c'est vrai que c'est une problématique qui est très flagrante en ce moment. La main d'œuvre pour l'agriculture dans le rural elle est en train de devenir de plus en plus restreinte.
Alors justement, la jeune agricultrice, la jeune ingénieure, quand elle étudiait, elle était très très loin de penser finalement à l'évolution de ce monde agricole.
Bien sûr. En toute honnêteté, quand on sort de l'école, on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire, mais la majorité des temps, on sait quand même ce qu'on ne veut pas faire. Et moi, j'encourage chaque personne qui vient d'avoir son nouveau diplôme de prendre assez. Je sais qu'avec la pression de la famille, avec la pression des amis qui se font recruter, avec la pression un peu sociale, on a tendance à aller vers le premier emploi, la première opportunité qui nous vient, juste pour ne pas se sentir au chômage. Mais moi, je dis que c'est mieux qu'on prenne assez de temps pour comprendre ce qu'on ne veut pas dans le travail. Et pour mon cas, ce que je ne voulais pas, c'est m'asseoir dans un bureau à longueur de journée à faire des plans. Non pas que c'est mauvais, d'autres personnes y préfèrent cela. Mais moi, je pense que même si on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire quand on sort de l'école, il faut quand même rester, se donner un peu de temps pour penser à ce qu'on ne veut pas faire, parce que ça affecte énormément votre rendement dans votre carrière.
Alors, on va revenir à ce prix que vous avez remporté il y a quelques mois en Thaïlande, celui du quartier Women's Initiative. Et vous avez dit, justement, on ne s'attendait vraiment pas à remporter ce prix-là. À votre avis, qu'est-ce qui fait que vous l'avez finalement remporté, même en étant une toute petite entreprise, débutante quand même ?
Moi, je pense que ce qui est bien dans la reconnaissance de quartier, c'est que pour eux, ce n'est pas important la taille de l'entreprise, mais beaucoup plus quand le prix sera donné à cette personne, quel impact il aura sur l'entreprise, sur la personne et sur les communautés que cette entreprise sert. Et je pense que c'était ça ce qui nous a fait gagner d'ailleurs. C'est parce que le prix, il nous a permis une reconnaissance à l'international, oui, mais il nous a permis beaucoup plus, beaucoup de visibilité ici au Maroc.
Justement, sans cette initiative, il n'y avait pas de visibilité pour vous ?
Sincèrement, pas beaucoup, non. C'est grâce à ce prix, grâce aux efforts que le prix a fait pour nous rendre plus visibles, que nous avons pu avoir une plateforme pour parler, pour discuter, pour partager notre vision, ce que nous voulons faire. Par exemple, ils nous ont permis d'avoir une interview avec le New York Times. C'est quelque chose que je ne pense pas qu'on aurait pu avoir tout seul sans l'appui de ce prix. Ils nous ont permis d'avoir des interviews avec des magazines internationaux, locaux, etc. Donc moi, je dis que ce prix, c'est beaucoup plus qu'un prix, c'est beaucoup plus que juste de l'argent. Ce prix, c'est une visibilité pour une jeune femme une jeune femme qui a commencé de zéro, qui est toujours en train de se battre en fait pour l'entreprise, pour l'écosystème rural, social. Et je pense qu'ils ont vu ça. Et pour nous, ça, c'est plus important que le prix lui-même.
Alors aujourd'hui, quelle est la solution exactement que vous développez?
Donc nous, on offre des systèmes d'irrigation localisés solaires, mais nous le faisons un peu différemment de ce qui se passe généralement en vente d'équipements. Nous essayons de faire nos canaux de distribution à travers les jeunes dans le rural. Nous leur faisons des formations pour pouvoir vendre notre équipement, pour pouvoir maintenir notre équipement et pour pouvoir aussi réparer en cas de panne.
Pour vous, en quoi cette solution, on va dire, est innovante pour l'écosystème?
Moi, je le dis toujours, et nous sommes très honnêtes là-dessus, notre innovation, elle n'est pas technologique, pas du tout, parce qu'on a compris très très tôt, nous avons compris que s'identifier autant que technologie, ce n'est pas vraiment intéressant, parce que la technologie, elle change du jour au lendemain, et des fois, ce n'est pas adapté à nos réalités locales. Nous n'avons pas besoin de la meilleure technologie, IoT, etc. Nous avons beaucoup plus besoin de solutions qui marchent. Donc nous ne nous identifions pas autant qu'innovation technologique, mais beaucoup plus qu'innovation sociale. Comment faire pour adapter les technologies qui existent déjà, les rendre plus simples, plus abordables pour les petits agriculteurs, tout en donnant des opportunités d'emploi peut-être ou de petits revenus aux jeunes qui sont dans les villages.
Ok, alors vous êtes aussi associé à l'UNICEF.
Oui, je suis Climate Advocate avec l'UNICEF. C'est un programme qui permet justement de partager notre connaissance, ce qu'on a compris comme connaissance dans le terrain marocain avec d'autres personnes d'autres pays. C'est un partage d'expérience et de l'advocacy en climate.
Ok, alors ça, vous le faites comment, justement?
En fait, pour l'instant, c'est beaucoup plus dans le cadre de partage d'expérience. Nous avons enregistré plutôt, nous avons industrialisé un grand nombre de nos process, de nos méthodologies, de nos guides, de comment on travaille avec l'agriculteur, comment on fait, c'est quoi le process de formation pour les jeunes pour qu'ils aient des green jobs, c'est quoi le process pour convaincre l'agriculteur d'être sensibilisé en climate urgency, etc. Et on va dire, toute cette expertise que nous avons, que ce soit sociale ou sur l'environnement, nous le partageons avec d'autres personnes dans d'autres pays. Nous aussi, nous en prenons d'eux et nous implémentons, nous essayons leurs solutions dans le Maroc et ils essaient nos solutions ailleurs dans d'autres pays.
Ça c'est magnifique. C'est incroyable, mais comme vous l'avez très bien dit, en fait, en démarrant tout ça, rien n'était prévu. Ça s'est fait tout seul.
Exactement. En toute honnêteté, oui, il n'y avait pas de, on va pas vous mentir, on n'avait pas de plan d'action bien défini ou de growth strategy. On n'en avait rien de tout ça. D'ailleurs, ces termes techniques, nous, on les a appris après
Ouais,
avoir commencé
ouais.
sur le. Donc, nous, day one, jour un, quand on a commencé, tout ce qu'on voulait faire, en fait, c'est de travailler dans le rural, de trouver des solutions rurales. Et ça a fait que ça a tombé dans l'irrigation localisée solaire. Et après, ça a fait que c'est tombé aussi en travaillant avec les jeunes et les femmes du rural. Et puis, ça s'est échelonné jusqu'à avoir une solution, on va dire, plus complète. Mais à la base, on ne savait rien. On ne savait pas, en fait, comment nous allons le faire, on savait juste ce qu'on voulait faire.
Et finalement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de plus programmer l'avenir, de plus avoir de plan, de direction?
Oui, bien sûr, parce que par exemple, quand vous êtes reconnu par un programme aussi prestigieux que Cartier, juste à titre exemple, vous avez accès à un réseau de mentors, à un réseau d'experts, experts marché, experts opérationnels, etc., qui vous aident dans vos stratégies d'expansion, qui vous aident dans vos stratégie, comment renforcer déjà ce que vous faites déjà. Ça vous donne accès à énormément de partenaires qui vous aident d'ailleurs à renforcer votre... Parce que, en toute honnêteté, chaque entreprise ou chaque business model, il y a toujours des failles. Et ces personnes-là, d'ailleurs, ils sont là pour nous aider à combler ces failles, pour pouvoir faire une expansion plus, on va dire, stratégique et plus pensée.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce sur quoi vers quoi vous voulez aller?
Sincèrement, à ce stade-là, nous avons, grâce au programme auquel nous avons été plugués, nous avons pu identifier les failles que nous avons dans notre business model, okay. Les failles que nous avons au sein de l'entreprise. Et on ne va pas vous dire que nous sommes en train de penser à une expansion en ce moment, non. Nous sommes en train de penser à rectifier nos erreurs, à rendre plus fort notre business model, à rendre plus fort notre activité sociale avant de penser et industrialiser tous nos process avant de penser à une expansion ou à une prochaine étape.
Eh bien, Nedal Tefah, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous, d'avoir partagé avec nous votre parcours et justement toute cette honnêteté autour de cette trajectoire, de cette remise en question, de suivre aussi l'évolution avec vous. Merci infiniment. Merci Nedal. Merci Tefah.
Bonne journée.
Également, merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.